Profitez d'une retraite paisible dès votre entrée dans la vie active avec Suno Assurance qui vous accompagne où que vous soyez au Cameroun et dans ses 14 pays de présence. Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Je suis tonton. À la base, on n'avait aucune idée du sexe de l'enfant. Ouais. Il y avait juste les parents, mais ils ne voulaient pas le dire. Moi, ils m'ont fait une fleur parce que j'ai eu l'accident, donc ils ont bien voulu me le dire.
Ah oui, d'accord.
Donc voilà ce qu'il faut faire pour connaître le sexe d'un enfant, quoi. Devenir paraplégique.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Priorité Santé vous propose, au cours des 3 prochains jours, d'aller partager la vie de patients, de soignants, reportage au long cours à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, en banlieue parisienne. Reportage et surtout, rencontres au pluriel. À l'origine de ce projet au long cours, une première rencontre avec le docteur Caroline Hugeron, médecin au service de médecine physique et de réadaptation de cet hôpital de Garches. C'était le 4 mai 2018 et nous parlions alors dans l'émission Priorité Santé des blessés médulaires, para et tétraplégiques. 50 minutes et un sentiment d'inachevé pour donner la parole à ces jeunes, des accidentés de la vie que le service du docteur Hugeron prend en charge de leur arrivée à leur sortie de l'hôpital 5, 6, voire 12 mois plus tard. Immersion donc pour suivre les différentes étapes de la rééducation. Ce sera avec Modibo, Alexis et Martin. Rééducation de ces patients, de l'annonce du diagnostic au début de la kinésithérapie, des premières sondes à la maîtrise de la toilette, des premiers push-ups à la maîtrise totale des transferts qui permettent de passer du lit au fauteuil roulant ou du fauteuil roulant au fauteuil douche. 6 mois, une équipe, 3 parcours de vie. Il faut prendre, il faut donner le temps. En 3 jours et 3 émissions, nous allons donc vous faire vivre une partie de ces tranches de vie. Et Igor Strauss, au travers de ce reportage, a souhaité apporter un regard différent sur le handicap.
Priorité santé. Sur RFI.
Chapitre 1, l'accident. Avec Alexis, 23 ans, Modibo, 20 ans, et Martin, 19 ans.
Alors Alexis, 23 ans, et j'ai eu un accident de moto le 19 février 2019, du coup. Accident de moto pour me rendre sur mon lieu de travail, à 5 minutes de chez moi, hein, pour bien rentrer dans les statistiques, toujours bon. J'étais en moto, complètement équipé, à 100%. Je faisais de la remontée de fil, à 50 km/h.
Donc tu passais entre les voitures.
C'est ça. Sauf qu'à partir d'un certain moment, donc sur ces doubles voies, la voie de gauche est zébrée complètement et il n'y a aucune voiture donc à gauche. Donc c'est pour ça que la remontée de fil est d'autant plus rassurante, car c'était pas entre les voitures là, mais c'était seulement dépasser plutôt toutes les voitures à ma droite. Et il s'avère qu'à la fin de cette file, il y avait ironiquement une ambulance, et ça me bloquait mon champ de vision à droite. Pile à cet endroit-là, et au niveau donc de l'ambulance qui était à la fin de la file, une voiture est sortie d'un parking en grillant la priorité, donc par exemple devant l'ambulance. Et moi, j'ai vu cette voiture beaucoup trop tard, seulement lorsqu'elle était en face de moi, car l'ambulance me bloquait mon champ de vision. Et au moment donc où j'ai vu le véhicule, j'ai vu un petit espace sur lequel en fait je pouvais me faufiler. Sauf que le véhicule m'a pas vu, le conducteur non plus. Enfin, donc il a continué et a pris carrément les deux voies perpendiculairement. Et à partir de là, en fait, je l'ai pris de plein fouet à l'avant de sa voiture, donc sur le côté, au niveau de la roue avant gauche. Le problème en fait derrière, c'est que j'ai fait un choc frontal, ça m'a éjecté donc sur la voie qui allait dans le sens inverse. Sauf que sur cette voie il y avait un bus, donc je me suis pris le côté du bus. Puis le bus, par le choc, ça m'a remis sur ma propre voie, mais 5 mètres plus loin. Donc en fait j'ai fait un peu un ping-pong, Donc j'ai eu un peu de choc. Je pense que c'est ça qui a été le plus douloureux pour mes vertèbres. Au niveau des dégâts que j'avais, donc c'était 8 côtes cassées sur le côté gauche. La vertèbre qui avait été complètement fracturée et qui avait sectionné la moelle épinière. Suite à quoi j'ai été 2 jours dans un coma artificiel, enfin, je sais, intubé. Et voilà, c'était ça. Donc ouais, c'était arrivé un mardi, et c'est ça, le jeudi après-midi, ils m'ont enlevé les tubes, et là, j'ai pu voir mes parents à mon chevet. C'est vrai qu'on fait un saut comme ça dans le temps de 2 jours, l'accident, mais on sait pas trop ce qui se passe. Même si c'était plus tard que les médecins ont pu réellement me dire qu'il n'y avait pas d'espoir de récupération au niveau des membres inférieurs. Au début, forcément, ils sont un peu dans le doute et puis ils veulent pas non plus aggraver la situation. Donc ils sont beaucoup dans l'espoir en disant non, il y a toujours des moyens de récupération, on sait jamais, on n'est pas des experts. Enfin, ils passent un peu par tous les discours. À la limite, pour moi, c'est même plus simple. Car le fait qu'elle soit sectionnée, il n'y a pas de doute possible. Il n'y a pas de possibilité de récup, donc c'est comme ça. Voilà.
Ouais, non, je préfère garder ça, un accident de moto, mais je préfère garder ça.
Les 3/4 des gens ici, c'est accident de moto.
Ouais.
Pourquoi tu oses pas me le dire?
Non, mais c'est rien de stupide, hein, c'est... Je préfère garder ça pour moi.
Aller trop vite ou c'est quoi?
Non, même pas. non, même pas, c'est pas de chance, tout ce que j'ai à vous dire, c'est pas de chance du tout.
Moi je m'appelle Martin, j'ai 19 ans, donc j'ai eu mon accident il y a bientôt 4 mois. Donc c'est un accident de ski hors piste, c'est une descente qui s'est terminée en glace, sur laquelle j'ai fini par glisser, puis une barre rocheuse au bout, puis bon, j'ai fait une chute assez importante sur quelque chose qui était dur. Donc bah voilà, j'ai explosé ma vertèbre lombaire, puis ça a abîmé la moelle épinière, donc voilà, ça m'a laissé paraplégique pour le moment. Donc, bon, pour l'instant ça progresse pas mal, donc bon, je suis content, et puis on attend pas mal de l'avenir.
Alors, on va revenir évidemment sur ton parcours à Garches,
ouais.
Mais d'abord, parle-nous un peu de toi. Quel jeune homme tu es? Quelle musique tu écoutes? Est-ce que t'es musicien? Est-ce que t'es sportif? Est-ce que t'es étudiant?
Bah ouais, je joue un peu de guitare, là, je l'ai ramené juste ici.
Ouais, t'as dit, ouais.
Et puis ouais, je suis étudiant en fait. Bon, je le suis toujours en fait. Là, dans une semaine, je passe des concours. Je suis toujours d'ailleurs en CAGNE BL. Alors c'est une prépa assez particulière. C'est CAGNE, c'est-à-dire que c'est des lettres. Et en même temps, on fait des maths et de l'économie.
Sportif?
Oui, bah, je faisais du triathlon, je faisais un peu d'alpinisme, je faisais pas un peu d'escalade aussi, donc voilà, ouais, j'avais une bonne condition physique. Ouais. Donc, d'après le médecin, c'est ce qui a contribué un peu à me sauver pour mon accident, que j'avais pas mal de muscles dorsaux et que ça a un peu amorti le choc. Quoi. En même temps, c'est un accident de sport, donc on peut se dire oui, si tu faisais pas de sport, t'aurais pas eu ça, mais en même temps, si j'en avais pas fait et que c'était quand même arrivé, je serais peut-être mort finalement, mais voilà.
Est-ce que ton regard sur le handicap, sur ta condition, a changé, a évolué, ou c'est toujours la même?
Oui, ça a pas mal changé. Enfin, au début, j'étais hospitalisé dans des services qui n'étaient pas vraiment adaptés. C'était des services de neurologie dans lesquels les pathologies étaient très différentes. Il y avait des AVC, par exemple. Et donc, du coup, on apprend à avoir justement des personnes qui ont eu d'autres accidents, qui ont eu des pathologies très différentes, et beaucoup à relativiser. Quand on voit beaucoup de personnes qui ont plus du tout leur intellect, qui ont du mal à parler, qui ont des choses qui moi, me concernent pas du tout, on apprend à dire, bon, bah, effectivement, j'ai plus mes jambes, j'ai plus de contrôle en dessous de la ceinture, mais fondamentalement, j'ai le plus important, autrement dit, la capacité de parler plutôt clairement, pour être plus précis, c'est-à-dire que il y avait des repas, par exemple, où on mangeait ensemble. Et puis donc du coup, on se retrouve directement un peu face au mur, pour le coup, du handicap. Alors que moi, j'ai pas l'impression d'avoir ce mur. Je peux communiquer facilement, donc peut-être quand je sors, les personnes regardent un peu différemment, disent « Ah oui, effectivement, il est en fauteuil roulant ». Mais là, c'est un mur qui est quand même beaucoup plus important. C'est même une solitude qui est quand même beaucoup plus importante, dans la mesure où la communication, elle est rompue des premiers moments.
Tu viens de parler du regard des autres. J'en ai discuté avec tes collègues, Modibo, Alexis, pour eux, c'est absolument pas un problème pour toi.
Bah non, parce que c'est pas malveillant. Mais il y a quand même, enfin moi, ce que j'ai senti, une petite chose qui change, un peu comme si les gens étaient désolés quand on les voit, quand on leur parle, quand on les connaît pas. Vous allez en dire non, ne soyez pas désolé, c'est la vie. Enfin, c'est fondamentalement, il faudrait qu'à l'avenir, ce soit juste une différence. Mais bon, ce serait quand même assez égoïste de se plaindre de que les gens soient trop gentils avec vous.
On y va, monsieur ? Oui. Allez, c'est parti.
Chapitre 2, l'annonce du résultat.
Voilà, sinon, ça va faire balançoire.
T'as raison.
Avec le docteur Caroline Hugeron du service de médecine physique et de réadaptation.
Alors, vous allez enlever le bras. Je me permets de lever un petit peu votre t-shirt. Mmh. Alors, voulez-vous tousser, s'il vous plaît? Eh ben oui. Il y a du monde, il y a des abdos. Allez-y, encore un coup. Ouais, on les a tous ici et là, on n'a que les supérieurs à droite. Alors, je vais regarder le réflexe. Comme tout à l'heure, je vous touche comme ça. Doudou. Hein? Ici, est-ce que vous sentez?
Non.
Non? Vous allez me dire à partir d'où vous sentez quelque chose?
Là.
Là, d'accord. Et là?
Tout doucement.
Doucement, d'accord. Vous sentez pas du tout ou un...
Juste un petit flairement.
Un truc très léger, d'accord. Et là? Pas du tout. Et là, c'est tout normal, sûr. D'accord. T11, dernier niveau sein, à gauche. Donc, on est T10 droite et 11 gauche. Et en abdos, ben on les a tous à droite et on a que les supérieurs... Ah, à gauche, pardon, et que les supérieurs à droite. Vous voyez, là, la jambe, elle part comme ça. Elle est dans cette position. Là, j'étends.
Oui.
Et là, je plie. D'accord. Voulez-vous fermer les yeux, s'il vous plaît? Ça, c'est comment? Étendu ou plié?
Je sais pas.
D'accord. C'est difficile, hein? Ok. Alors, on vous installe dans le fauteuil et puis je vais vous raconter un peu à quelle sauce vous allez être mangé.
D'accord.
Donc, qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, monsieur?
C'est un accident de toit, une chute sur un toit.
Et du coup, vous êtes ici depuis combien de temps à l'hôpital?
Ça va faire un mois, là. Voilà, mais avant d'être ici, j'étais à Rennes.
Vous êtes breton?
Non. non, j'étais à Rennes. Puis, bon, l'accident s'est produit sur le Guingamp. Ils m'ont transféré au CHU de Rennes.
Alors, que je vous explique un petit peu. Est-ce que vous avez compris ce qui vous est arrivé? Je crois qu'on a discuté un peu. Vous aviez discuté aussi avec Astrid. Est-ce que vous avez des questions à propos de ça?
Au premier abord, j'ai toujours pas encore assimilé ce qui est arrivé. Bon, je sais qu'il y a eu cette chute, donc la partie du bas, je la ressens. Voilà. Ouais. Donc, c'est ma hantise.
Alors, c'est vrai que cette chute, ça a été vraiment une mauvaise chute parce que ça vous a cassé la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale, les vertèbres sont empilées, puis ça fait comme un petit tuyau osseux dans lequel passe la moelle épinière. C'est du nerf, en fait. Hein. C'est quelque chose de mou, de fragile. Et quand vous avez une fracture et que l'os vient se déplacer, ben, ça vient abîmer cette moelle épinière. Et ce que vous avez là, bah, c'est en rapport avec la lésion de la moelle épinière. C'est-à-dire que la conduction ne passe plus entre ce que vous voulez, ce qu'ordonne votre cerveau, et ce qui se passe en dessous, bah, y a un endroit où ça ne passe plus.
Hein.
Alors, est-ce que c'est coupé, écrasé? En pratique, physiquement, je ne sais pas, mais fonctionnellement, le courant ne passe plus, si on veut prendre un raccourci. Le courant ne passe plus pour pouvoir commander vos jambes, mais c'est pareil, quand on touche, quand tout ça, l'information n'arrive pas non plus à votre cerveau, parce qu'il y a un endroit où ben, ça a été trop abîmé et ça ne passe pas. C'est pour ça également que votre vessie ne fonctionne pas bien, que les selles ne fonctionnent pas bien, qu'on est obligé d'évacuer tout ça, c'est pour la même raison. Et je ne vous cache pas que cette lésion est quand même une lésion grave. Il y a eu quand même de gros dégâts. Alors, Nous, en rééducation, on n'a pas de technique et il n'y a pas de médicament actuellement pour faire repousser cette moelle épinière. Donc, on ne peut pas réparer les choses. Et donc, ce que va faire Clotilde, ce que va faire votre ergo, enfin, ce que vont faire toute l'équipe, c'est de faire en sorte que vous puissiez vous débrouiller le mieux possible, même si ça ne récupère pas. On fait avec ce qu'on a là. Et là, actuellement, on a des jambes qui ne veulent pas fonctionner et une vessie qui ne veut pas fonctionner.
Bien. Ouais. C'est pas encourageant tout ça.
Alors, il y a une autre chose. Je vous ai parlé de la vessie, qu'il fallait faire les sondages, tout ça. Il y a d'autres problèmes aussi qui arrivent que vous avez sûrement remarqué. C'est sur le plan génitosexuel, ça ne fonctionne pas.
J'ai pas envie de parler.
Ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne pas comme c'était avant. Mmh. Et ça, c'est pareil. C'est à cause de cette fichue lésion de la moelle épinière. On a un médecin qui consulte spécifiquement là-dessus. Et si vous souhaitez le voir, vous pouvez, c'est possible. On peut vous bloquer un rendez-vous dès maintenant ou plus tard, ou tout seul, ou avec votre épouse. C'est comme vous voulez.
D'accord.
Donc, voilà. Mais en tout cas, comme ça, vous êtes au courant et vous nous dites.
J'avais déjà le soupçon.
Vous aviez remarqué.
Oui.
Ouais. En tout cas, il n'y a pas rien à faire. On peut faire des choses, donc c'est important aussi de le savoir.
D'accord. Mmh. Bien.
Ok. Ah, ça, c'est vous. Merci infiniment.
Mmh. Mais de rien.
Merci.
Voilà. Travaillez
Allez.
Bien.
Merci beaucoup.
Bonne fin d'après-midi.
Au revoir, monsieur.
Au revoir.
Juste, docteur Hugeron, c'est un moment clé, l'annonce du diagnostic pour un patient.
Oui. C'est un moment clé et il faut surtout partir sur de bonnes bases. Et qu'on soit bien d'accord sur les objectifs entre l'équipe de rééducation et le patient. Sinon, il y a plein de malentendus. Il ne faut pas comprendre pourquoi on travaille telle chose et pas telle autre, et pourquoi on leur demande de choisir le fauteuil, et pourquoi on fait tel ou tel papier pour avec l'assistante sociale. Donc, c'est un moment clé.
Et pour un médecin comme vous, c'est délicat ou avec l'habitude, vous arrivez à voir la manière?
C'est toujours délicat parce qu'on annonce des horreurs. Même si, effectivement, en fauteuil roulant, on a plein de possibilités, on peut retravailler, on peut conduire, on peut faire du sport, il n'empêche que ça reste quand même une horreur. On ne peut pas prendre conscience comme ça d'un seul coup, ça se fait petit à petit, mais il ne faut surtout pas les leurrer. Il ne faut pas les leurrer, il faut vraiment être clair dès le début.
Salut Martin, je te dérange?
Non, pas de soucis.
Je peux rentrer?
Ouais.
Tu vas bien?
Ça va.
Bien dormi? Posé?
Chapitre 3, l'emploi du temps, avec Martin, 19 ans, paraplégique suite à un accident de ski.
Moi, généralement, ce qui me réveille en premier, c'est les infirmières ou les aides-soignantes qui amènent le plateau, vers 7h30. Vers 8h30, généralement, on m'amène le fauteuil douche où il est déjà là pour que je puisse aller prendre ma douche et que je puisse me brosser les dents. Là, comme j'ai un pansement à faire parce que j'ai une petite escarre, j'attends à peu près 9h30 qu'on vienne me le faire. Et puis, 9h40, 9h50, je suis prêt, je peux descendre en kiné. Le kiné, ça dure 1h, 1h30. À 11h30, je suis dans la chambre pour pouvoir manger, etc. À 13h30, j'ai verticalisation. On se met sur une table, on la met à 80 degrés à peu près, pour verticaliser un peu tout le corps, pour justement que ça fasse du bien un peu aux os et aux organes.
Mais à 14h30... C'est vrai, la fameuse planche, je crois que j'ai vue, où tu restes vraiment debout.
C'est ça.
Tu fais aucun exercice physique, tu es juste debout en position...
La gravité fait son travail, c'est-à-dire que tu as de la pression sur les articulations, donc ça permet d'entretenir un peu le squelette. Et puis même tous les organes aiment bien être à la verticale, quoi, en position normale. Que ce soit les organes du transit... Et donc à 14h30, un jour sur deux, aussi, j'ai une séance de sport. Donc c'est là que j'ai appris à faire du deux-roues. Puis de temps en temps, on va faire badminton, un ping-pong, ou du renforcement musculaire quand j'en avais besoin.
Des journées bien rythmées, finalement.
Ouais, parfois, on se demande quand est-ce qu'on va travailler là-dedans. Mais généralement, à partir de 16h, on est tranquille.
C'est là que tu peux étudier, justement, te mettre à réviser tout ça ou...
Ouais, c'est ça, ouais, à 16h, 16h30. Sauf quand il y a des examens, parce que quand même, tu entends des radios, des échographies, des bilans aérodynamiques, toutes sortes de tests parfois si on a des petites douleurs dans le dos, etc., qu'on se pose des questions, il faut faire des radios. Puis il y a aussi des radios de contrôle à faire de temps en temps pour voir ce qu'on a mis, en tout cas pour stabiliser la vertèbre, réagit. Puis il y a des bilans aérodynamiques pour tout ce qui touche à la vessie et à son contrôle. Il y a aussi des rendez-vous parfois avec les ergothérapeutes pour mettre en place la suite, avec l'assistante sociale aussi, pour savoir tout ce dont, ce à quoi on a droit et tout ce qu'il faut prévoir pour la suite. Enfin, un reproche que je pourrais faire, par exemple, à toutes les missions qui portaient sur le handicap, c'est qu'on monte uniquement la partie physique. Et on, c'est absolument pas ce qu'il y a derrière, quoi. Alors qu'une grosse partie du temps qu'on dépense, en quelque sorte, à l'hôpital, c'est aussi pour des choses qu'on voit pas et dont on peut pas se douter pour quelqu'un qui est paraplégique. Autrement dit, préparer ce qu'il y a ensuite.
Le projet de vie, tout simplement. Et puis,
c'est ça, oui. Bien sûr. Et puis, il y a aussi parfois certaines personnes qui ont besoin de soutien psychologique, parce que bon, c'est pas évident quand même de savoir que votre vie, en fait, elle est bouleversée.
Chapitre 4. La kiné d'Alexis. Avec Alexis, 23 ans, paraplégique après un accident de moto, et Margot, sa kinésithérapeute.
Ok, t'es bien installé ?
Ouais, pas de problème.
C'est bon ?
Super.
Bah les filles, je vais vous laisser mobiliser les jambes comme hier. Ok, je vous laisse faire ? Donc là, classiquement, on commence les séances par des mobilisations. Donc le but, c'est d'empêcher les articulations de s'enraidir. Juste après le transfert, du coup, le patient, il se repose un peu pendant que nous, on mobilise ses jambes. Et donc ça permet de garder un œil aussi sur les articulations, voir si au cours du temps ça se modifie, s'il y a des choses qui changent, et surtout de garder une bonne souplesse, quoi. Faut absolument que tu me fasses penser du coup qu'on aille voir Nadine après la séance ou... Ok ? Je lui en ai déjà parlé hier. Juste qu'elle montre à tes parents aussi le chargement du fauteuil, enfin... Parce qu'en fait il faut l'accrocher, tu montes par derrière, et après il faut accrocher le fauteuil dans la voiture, quoi.
Ok, ouais.
T'es tonton ?
C'est ça. Je suis tonton, je l'étais déjà, j'avais déjà une nièce d'un an et demi maintenant. Donc là, maintenant, un neveu, il s'appelle Oscar.
Oscar,
c'est
sympa.
C'est
pas original.
On ne s'attendait pas au prénom. En fait, à la base, on n'avait aucune idée du sexe de l'enfant. Il y avait juste les parents, mais ils ne voulaient pas le dire. Moi, ils m'ont fait une fleur parce que j'ai eu l'accident, donc ils ont bien voulu me le dire.
Ah oui, d'accord.
Donc voilà ce qu'il faut faire pour connaître le sexe d'un enfant, quoi. Devenir paraplégique. Mais bon, voilà, je savais au moins le sexe de l'enfant, mais pas le prénom, toujours.
Alors, t'es content ?
Oui.
Non, mais je sais pas, du coup, t'avais déjà une petite nièce, donc d'avoir un petit...
Oui, oui, très content, c'est...
T'as fait une photo ?
J'ai pas mon téléphone sur moi. Demain, je vous montrerai. Mais c'est vrai que...
T'allais dire mais. Content mais.
C'est plus compliqué, du coup, pour aller le voir là actuellement, du fait de la rééducation, de l'handicap. Voilà, quoi. Ça demande beaucoup de préparation pour quelque chose si j'avais été... Si j'avais continué ma vie normalement, ça aurait été beaucoup plus simple.
En fait,
c'est surtout ça.
Ah oui, tu vas voir, ça va.
On se débrouille, hein. On fait avec.
Et plutôt, c'est tout. En rotation.
Enfin bon, ça va venir avec le temps aussi d'oublier comment c'était avant. Et puis juste de s'habituer au présent. C'est surtout ça.
Et c'est dur justement d'oublier comment c'était avant.
Pour le moment, en fait, je fais des comparaisons constamment. Après un certain moment, ça part. Surtout ça, hein, c'est pas d'autre chose.
Ok, on va passer sur le ventre du coup. Alors, t'es prêt ?
Ouais.
Allez, on y va. Ok, bouge pas.
J'ai une question.
Ouais.
Mais lorsque je suis sur le ventre, tu sais, j'ai les pieds du coup en équin là.
Ouais.
Ça gêne pas pour passer une nuit comme ça ? Même passer toutes mes nuits avec mes pieds...
Pourquoi ? Parce que tu veux dormir sur le ventre ? Ça ne te tourne pas trop, mais... Tu voudrais
à terme,
dormir sur le ventre ?
À terme. Enfin,
idéalement, ça ne gêne pas trop. Non. Après, moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais peut-être les pieds un peu en dehors du lit.
Ouais, d'accord.
Tu vois, pour pas que ça s'enraidisse et tout. Pour l'instant, t'es hyper souple, donc il n'y a pas vraiment de raison que ça pose un problème. Hein.
Ouais, d'accord. Ouais. C'est pour plus tard, tu vois... Au bout de 10 ans...
Tu pourras dormir sur le ventre, il n'y a aucune contre-indication à ça.
Ouais, mais c'est surtout au niveau du positionnement de mes pieds.
Non, c'est pas...
c'est pas un souci.
Là, pour l'instant, tu dois dormir que sur le dos, c'est ça?
Oui. C'est surtout pas très pratique, en fait, actuellement, de se positionner, ou alors je peux pas le faire seul. Donc, oui, c'est sur le dos. Chose pour laquelle j'étais pas vraiment habitué. Ouais. Pas de bol.
Moi, surtout, en plus, avec le matelas, il a un matelas à air en ce moment, et donc dormir sur le ventre sur un matelas à air, je pense que c'est compliqué quand même, non?
Les matelas à air, c'est les matelas anti-escarres, c'est ça?
Ouais, exactement. Comme on a la peau, elle est encore un peu fragile, on préfère protéger, quoi, être sûr.
Et donc, vous disiez qu'il a une bonne souplesse, Alexis, c'est ça?
Oui, tout à fait. Alors, il est un petit peu plus raide au niveau des quadriceps devant, là, où normalement, on pourrait espérer un talon-fesse qu'on n'a pas. Mais bon, après, voilà, ça, tu l'avais pas avant. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'entretenir, parce que quand on est au fauteuil toute la journée, on peut avoir des choses qui s'enraidissent. Et du coup, qui dit enraidissement, dit augmentation des points d'appui sur certaines zones, et donc risque d'escarre, quoi. On va dire que ça fait partie des conséquences, et... Voilà. Mais sinon, Alexis est quand même globalement très souple. On va faire un petit peu de gainage.
Okay.
Allez. Donc on fait quoi? 1 minute 15? 3 fois 1 minute 15?
Ouais.
Je vais choper un chrono. Ok. C'est prêt?
Le gainage, c'est allongé sur les coudes pour muscler les abdos.
Exactement, les abdos et les dorsaux. On y va. Voilà, ça c'est mieux. Tu tiens comme ça. Allez, encore. Tu tiens. Plus que ça. Allez, essaye de monter. Ok. En fait, il faudrait de la musique pour t'encourager.
Toi, il te faudrait quelle musique pour te motiver, Alexis? T'étais plus quoi, toi?
Metal, rock.
Moi, tu vas bien t'entendre avec Steph, hein.
Ah ouais?
Ouais. Allez. Voilà. Allez, c'est les 15 dernières secondes. T'essayes de monter le max. Ouais. Très bien. Encore. Tiens. Fire! Allez, plus que 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est bon.
Séance terminée ?
Oui, bah du coup là on va refaire le transfert et séance terminée.
Une de plus, Alexis ?
C'est ça. Une de plus.
T'es content de venir en kiné ou c'est contraignant ?
Non, ça, c'est bien. Oh, j'adore. Non, c'est super.
Donc Alexis, je te présente Nadine. Bonjour, oui, enchantée, bonjour. Rentrez, parce qu'il ne fait pas chaud dans ce couloir.
Bonjour.
Bonjour.
Enchantée.
Enchantée. Fermez la porte, parce que vous allez avoir froid dans le dos. Asseyez-vous pour ceux qui... Enfin, il y a une personne qui peut s'asseoir.
Moi, je reste debout, c'est très bien.
Alexis et moi.
Non, mais il n'y a pas de souci. Du coup, en fait, ce que je te disais, c'est que Alexis, pour l'instant, on ne peut pas forcément faire de transfert voiture à cause du corset.
Ouais.
Et qu'il vient d'avoir un petit neveu.
Mm-hmm. Ah,
qui voudrait aller voir à l'hôpital.
C'est ça.
Voilà.
D'accord. Tu as une autorisation de la part
Oui, j'en ai parlé au docteur Hugeron ce matin.
Voilà, si elle est d'accord, il faut que ce soit signalé à l'accueil là-haut.
C'est ça.
Hein, voilà, pour que tu sois vraiment bien autorisé à sortir. D'accord. Pour jeudi, tu as quelqu'un pour t'accompagner ?
Oui, j'aurai mes parents qui seront disponibles, qui peuvent conduire.
Alors moi, il faut au préalable que je vois la personne qui va conduire, parce qu'il faut que je lui montre, il y a un protocole, il faut que je lui montre les systèmes d'attache, hein, comment on fixe ton fauteuil dans le véhicule et comment toi aussi, on te met en sécurité dans le véhicule.
Est-ce que demain, tu es disponible à 15h30 ?
Demain, on est mercredi. Oui. Ok ?
Ça marche.
Maxime, c'est ça ?
Alexis.
Ah, pardon, Alexis, c'est pour aller où à Paris ou...
Anthony.
Anthony, d'accord. Je ne sais pas par curiosité, mais parce que je suis obligée de l'écrire sur la convention. Mmh. Ok, pas de souci. Bon, j'expliquerai à tes parents. Il faut remettre un petit peu d'essence au niveau où vous l'avez trouvé. Ce n'est pas une location, on n'a pas le droit. Hein. On est une association. Hein. Notre location n'est pas de gagner de l'argent. Mais simplement, voilà, on utilise le véhicule, on remet un petit peu d'essence au même niveau. Sans problème, voilà.
Super.
Si tu as tes parents au téléphone ou si tu les vois, tu leur dis qu'ils n'oublient pas le chèque de 500 euros. Et pour utiliser le véhicule, qu'on l'utilise une fois, deux fois, 10 fois ou 20 fois pendant son temps d'hospitalisation, on vous demande 18 euros. Et ces 18 euros correspondent finalement à l'abonnement à notre journal trimestriel.
D'accord.
Je vous donnerai tout ça quand tes parents viendront. Le journal, la petite plaquette aussi de l'association pour que, voilà... Tu saches qui on est, ce qu'on fait, parce qu'on prête des véhicules, c'est génial, mais on fait aussi pas mal d'autres choses qui peuvent peut-être t'intéresser.
Okay.
Voilà, ok ? Pour ton temps d'hospitalisation, pour essayer de te rendre cette période la moins désagréable possible, on va dire. Voilà.
Hein, c'est gentil, Nadine.
Merci beaucoup.
Ok, mais au plaisir.
Oui, oui. Et à demain.
Hein, merci. Tu te couvriras ? Tu ne sors pas comme ça demain ? Parce qu'on risque d'être un quart d'heure, 20 minutes dehors. Donc, que tu... Voilà.
À plus, merci. Au revoir.
Merci.
Eh bien, de rien. Bah, de toute façon, on se voit demain matin normal et puis on se revoit à 15h30. Je vais voir comment je me débrouille. Je vais voir comment je me débrouille. Ok ?
Ça marche. Ok.
Super. Ah, merci.
Bonjour.
Oui. Donc, c'était bien pour les douleurs neuropathiques. Merci.
Chapitre 5. Push-up, fauteuil douche et autres galères avec Modibo, 20 ans, et Alexis, 23 ans.
Modibo, bonjour. Ça va ?
Fatigué, hein ? Et vous, ça va ?
Ouais, ça va bien, merci.
En pleine forme.
J'étais avec Alexis pour sa séance de kiné.
Ça s'est bien passé ?
Ah bah, ça, faut demander à Alexis, ouais.
Un peu dur sur la fin.
Push-up.
C'est ça.
Je m'en doute, je suis passé par là. Hein.
Et des jours avec, des jours sans.
Ouais.
C'était plutôt sans.
Push-up, c'est des vieux souvenirs, ça, Modibo ? Toi, t'en es où au niveau des push-up ?
Oh, moi, push-up, ça y est, je mettrai ça maintenant. Ouais, c'est des vieux souvenirs. C'est une étape, franchement, fou.
faut être prêt mentalement et physiquement surtout.
Ouais, pourquoi ? Parce que c'est dur ?
Ouais, c'est dur, surtout qu'on n'arrive pas au début, on n'arrive pas à faire, on se dit qu'on va jamais réussir. Au final, on réussit, hein. Mais ouais, ça demande du temps quand même. Un mois et demi, deux mois. Mais c'était tous les jours. Cinq fois dans la semaine, en gros, push-up, push-up, push-up. S'il n'y a pas d'équilibre, laisse tomber, c'est galère au début. Après, une fois que tu maîtrises, ça y est, ça devient habituel, ça devient réflexe.
Voilà. Et toi, maintenant, t'en es où dans tes étapes de rééducation toi, t'es proche de la sortie, finalement.
Relever du sol, hein, c'est relever du sol, sans aucun doute. Relever du sol, en gros, c'est... Bah, tu te mets au sol, tu dois te remettre sur le fauteuil. Ça, c'est franchement l'étape suprême, quoi. C'est relever du sol. C'est bien qu'ils nous l'apprennent, parce qu'admettons un jour, tu tombes, t'es tout seul. Comment tu fais pour te remettre au fauteuil ? Bah, c'est pour ça qu'ils nous apprennent le relevé du sol.
Et entre le push-up et le relevé au fauteuil, est-ce qu'il y a d'autres étapes un peu compliquées aussi ou pas ?
Il y a le fauteuil douche. Ça, franchement, fauteuil douche, c'est galère. Ça, en fait, faut être concentré. Faut pas s'amuser en faisant le transfert fauteuil douche. Faut être prêt. Voilà, sinon je vois pas d'autres étapes compliquées. Alexis, dis-moi si j'en oublie. Hein.
Bon, Alexis, tu vois ce qui t'attend. Transfert douche, tu fais déjà ça ou pas, toi ?
Non, pas encore. Mais c'est vrai que quand je vois Modivo, ça a pas l'air évident. Hein. En fait, c'est au-delà que ce soit évident, c'est surtout dangereux, plus qu'autre chose. Là, si on se loupe, on a vraiment des petites parties en métal qui assez saillantes, qui sortent un peu partout du fauteuil. Et comme on sent pas, on se loupe sur le transfert. Et en fait, les fauteuils douche, ils n'ont pas été construits bien. C'est pas fait pour des transferts, ça n'a pas été bien pensé. Et donc, assez risqué, en fait. Donc oui, je redoute un peu. Hein. Mais bon, c'est marrant, on s'entraide. L'un et l'autre, on se tient le fauteuil douche, ça va être comme ça. Ça va être quelque chose de marrant, ouais.
Ça, c'est pour quand, pour toi ? C'est déjà plus que le corset, c'est ça ?
Ouais.
Je crois que toi, tout dépend un peu du corset, quoi.
Totalement. Tout va dépendre du corset. Donc, on va dire, à partir de mi-mai, il m'enlève le corset. Et à partir de là, je vais pouvoir m'amuser à faire tout ce que fait Modibo. Et là, je commence les choses sérieuses, ouais. Oh, c'est ça.
Bonne chance. Tu vas en barrer, je te dis que tu vas en barrer. Mais bon, après, c'est utile. En gros, il y a des choses, c'est devenu primordial. T'es obligé de savoir faire des transferts. Obligé. Ben, nous, pour les paras, pas pour les tétras. Les tétras, ça, c'est compliqué, c'est autre chose. Mais nous, les paras, les jeunes paras en forme, quoi, on est obligé de savoir faire des transferts.
Ouais, bah, du coup, votre jeunesse est un atout, quoi, parce que vous avez la force, au moins.
Oui. Oui, c'est plus évident de faire ça dans les 20 ans que 50, c'est sûr. Après, bon, j'aurais préféré quand même avoir ça à 50 ans plutôt qu'à 20, du coup, à choisir. Oui, c'est indéniable, hein. La jeunesse, c'est un avantage à ce niveau-là. En tout cas, au moins pour s'adapter et faire le plus compliqué le plus facilement possible. Car bon, du coup, Modibo, tu seras resté combien de temps ? 5 mois ici ?
Ouais, 4-5 mois, c'est vrai.
4-5
mois.
Moi, ça va être pareil. Enfin, c'est ce que je prévois, en tout cas, c'est mon objectif. Mais les plus vieux ou les plus touchés, c'est de l'ordre du 6 mois minimum, et ça va jusqu'à plus d'un an. Juste en centre de rééducation, sans compter tous les risques derrière que ça peut engendrer, en fait. Tout ce qui est escarre, etc. Ce qui peut augmenter encore plus le temps. Et puis les risques d'opération derrière. Ouais, c'est beaucoup plus difficile lorsqu'on est plus âgé. Beaucoup plus risqué, beaucoup plus long. Enfin bon. Et ça, tout le monde le sait. Allez-y.
Elle est super sardine.
Sardines,
beurre, citron. Je vous promets rien, hein. C'est pas moi qui l'ai fait.
Vous l'aurez mangé, vous ?
Moi, les sardines, j'avoue, non. L'omelette, je la mange, les pâtes aussi, mais les sardines, je vous les laisse.
Merci.
De rien. Bon appétit.
Merci.
Le fait de partager sa chambre, c'est un avantage ou c'est un inconvénient?
Ça dépend de avec qui. Si on est de la même tranche d'âge, on s'entend bien. Ouais. Ça peut être un avantage, mais si par exemple c'est un vieux ou autre, franchement c'est un désavantage. Hein. Non, moi, à l'heure actuelle avec Alexis, c'est un avantage. Un avantage. Après, je sais pas, il va tomber sur qui après moi, mais j'espère que ce sera un avantage pour lui aussi. Hein. Parce que ça aide beaucoup aussi dans la rééducation, ça aide mentalement.
Et de l'entraide aussi?
Ouais, de l'entraide, des conseils, comment ça va se passer. En gros, on se pose à peu près les mêmes questions.
Alors donc, toi, ça fait 4 mois que je suis ici,
ouais.
Contrairement à Alexis qui vient d'arriver.
Ouais.
Donc c'est un petit peu toi qui a des choses à lui apprendre ou à lui conseiller?
Pas lui apprendre, voilà, lui conseiller, quoi. J'essaie de partager ce que j'ai appris, comme je peux. Par exemple, je sais pas, au niveau des transferts.
Donc passer du fauteuil à au lit, ou du fauteuil,
voilà,
à...
C'est ça. Lui dire, regarde un peu comment je fais ou autre, mais après, c'est pas moi qui dois lui apprendre, mais juste je lui montre, quoi, on va dire. Je sais pas, par rapport à des sondes ou plein de petites choses. Lui dire que le fauteuil douche, en gros, c'est galère un peu, mais bon, on s'entraide, quoi. On est dans la même galère, mais il vaut s'entraider.
Chapitre 6, les sondes et l'exonération avec Alexis, 23 ans, paraplégique suite à un accident de moto.
Bah, il faut juste la sonde.
La poche et tout. La poche surtout.
Okay.
Et la sonde, en fait, si vous en avez aussi, ce serait bien. Elle serait accessible pour moi parce que. Bah, oui, oui. Ça, on n'a rien fait à droite à gauche.
Merci. À tout à l'heure.
Donc ça c'est quoi?
Alors ça c'est pour faire les autosondages, c'est-à-dire remplacer tout simplement le fait d'aller aux toilettes et uriner, et on le fait soi-même, quoi. On n'a plus les moyens de le faire par soi-même, donc on force tout simplement en rentrant une sonde jusqu'à la vessie. Et à partir de là, c'est une question de gravité. Hein. Depuis la vessie, l'urine, elle s'échappe et elle va dans une petite poche.
C'est une petite poche en plastique.
Petite poche.
Reliée à un fil.
Ouais, exactement.
Et donc, c'est relié à la vessie.
C'est ça, on est obligé de faire passer la sonde, en fait, par l'urètre jusqu'à la vessie.
D'accord.
Pas le choix.
Et c'est contraignant?
Plutôt psychologique, surtout pour les hommes. Pas l'habitude de se rentrer quoi que ce soit dans l'urètre. Après, au niveau contrainte, non, là, c'est à la limite plus simple que d'aller aux toilettes, car on peut le faire un peu n'importe où. C'est plutôt l'aspect psychologique qui est un peu rebutant au début, puis pas d'alternative, donc on s'y habitue et on fait avec.
Et en gros, c'est un geste qu'on doit faire combien de fois par jour?
En fait, assez normalement, comme si on allait aux toilettes, c'est-à-dire le matin, puis une fois à midi, une fois l'après-midi, une fois le soir et une fois avant de se coucher. Donc, on fait ça 5 fois dans la journée, puis ça suffit. Bon, bien sûr, en fonction aussi des jours où on consomme plus ou moins de liquide, hein, c'est naturellement. Le problème, c'est surtout savoir par soi-même ce qu'on a consommé. Car en tant que paraplégique, on n'a pas du tout d'indicateur pour savoir lorsqu'on a envie ou non d'aller aux toilettes. Il faut faire ça de manière régulière, constamment, même si parfois ça serait inutile, entre guillemets, car on n'a pas beaucoup bu, mais il faut prendre l'habitude de faire ça à des heures fixes, et puis qui ne sont pas forcément gênantes non plus dans la vie de tous les jours. Bon, à l'hôpital, ça ne gêne pas beaucoup, mais plus tard, faire ça aux heures de pause, ou... comme tout le monde, en fait. C'est plutôt ça. Voilà.
Donc les fameuses, c'est les sondes, c'est ça?
C'est ça. Il y en a plusieurs types à chaque fois. Merci beaucoup.
Et alors, puisqu'on est dans le sujet, pour la grosse commission, comment ça se passe?
Pour la grosse commission, donc au niveau de l'autonomie, ça je ne le fais pas encore. Mais l'idée, c'est, pour tous les paraplégiques, il n'y a pas le choix, c'est exonération. L'exonération, ça consiste à... Comme on ne peut pas pousser, on est obligé de forcer entre guillemets le passage et donc de rentrer un doigt par l'anus et puis de vider en fait tout ce qui est l'ampoule rectale et puis de faire ça aux toilettes après, voilà. Je sais qu'en fonction des paras, certains le font tous les jours, d'autres ils le font tous les deux jours, tous les trois jours. Ça dépend vraiment de chacun. Puis j'avoue ne pas encore trop savoir, comme je ne l'ai pas encore fait moi-même. Jusqu'à présent, c'est le personnel médical qui le font tous les matins. Moi, au début, par exemple, je pensais qu'il aurait été possible même d'utiliser certains moyens comme des laxatifs, et puis après de contrôler en fait par laxatifs, et puis par des produits pour se constiper ou autre, et contrôler en fait son transit de cette manière, mais c'est pas possible, car ça peut engendrer des fuites après par la suite. Donc, bon, c'est pas ce qu'on souhaite, hein. Donc, ouais. Exonération pour tous les patients.
C'est un passage difficile, ça ou pas? Pour la pudeur, pour l'ego?
Oui, j'ai envie de dire, on perd quand même un petit côté de dignité, définitivement. Ou plutôt, on s'habitue à des choses pour lesquelles, oui, on se cachait, etc. auparavant, et puis maintenant, c'est naturel, et il faut voir ça plutôt comme un acte médical qu'autrement, en fait. C'est vraiment un acte médical et de survie plus qu'autre chose. C'est plus un besoin, c'est une nécessité. Voilà. Bon, je vais aller aux toilettes là pour faire ça. Et puis... De toute façon, au niveau de nourriture, c'est jamais incroyable.
Garches, première partie, un reportage d'Igor Strauss, réalisation signée Victor Hull.
C'était des douleurs où que tu ressentais?
Aux fesses, ça me brûlait, ça me brûle.
Alors que, officiellement, tes fesses, tu ne ressens plus rien, elles sont...
Je ne ressens plus rien, mais ça me brûle, 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 brûle. Comme si on mettait du feu, comme si j'ai le feu au cul, quoi. Et on peut rien faire. C'est ça le plus embêtant, quoi. C'est qu'on peut rien faire du tout.
Et rendez-vous demain à 9h10, toujours dans Priorité Santé, reportage à Garches, pour la suite de notre reportage avec Igor Strauss. C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui vous accompagne où que vous soyez au Cameroun et dans ses 14 pays de présence. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Dans la peau.